Bienvenue au podcast CSH. Mon nom est Jessica Gay. Je suis accompagnée de Kimberly Saint-Pierre, Charles Saint-Louis et Mathieu Bouchard. Donc, tout au long de notre session, nous sommes penchés sur le sujet du Mexique. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, nous allons vous présenter chacune de nos recherches réflexives. Puis, nous allons parler de nos entrevues.
Pour parler de l'historiographie de l'économie du Mexique, les historiens se sont penchés sur le développement économique du Mexique, puis ils divisent cela en cinq périodes. Donc, il y a le Mexique précolombien, le Mexique colonial, le Mexique indépendant du 19e siècle, le Mexique sous la Révolution, il y a le Mexique sous la modernisation du pays et celle de la démocratie établie au début du 21e siècle. Donc, au Mexique précolombien, l'économie se basait plus vraiment sur l'agriculture, le troc. Le troc même est apparu dans des petites cités du Mexique vers l'an 200. Par la suite, ils ont commencé à faire beaucoup de troc, comme s'échanger des fèves, du cacao. Donc, c'était vraiment une économie basée plus sur les échanges, puis l'agriculture. Par la suite, au Mexique colonial, ça a été vraiment marqué par l'arrivée des Européens. Ceux-ci ont amené beaucoup, beaucoup de maladies. Ça a vraiment fait chuter les civilisations. Mais ils ont vraiment amené du positif, donc des nouvelles techniques d'agriculture. Ils ont aussi amené des nouvelles ressources, des nouvelles plantes comme la canne à sucre, le café, qui est devenu super populaire au Mexique. Il y a des animaux aussi qui sont arrivés comme des chèvres, des vaches, des cochons, des chevaux. Bref, ça a vraiment relancé l'économie précolombienne qui était comme vraiment plus une économie basée sur l'échange et le troc. Par la suite, la période coloniale, il y a eu vraiment beaucoup d'innovations. Donc, on a assisté à la première imprimerie, on a assisté à la montée des opéras, des choses de même. Donc, c'était moins basé sur l'agriculture, mais plus sur les innovations mexicaines. Après ça, le Mexique a obtenu son indépendance. Donc, les guerres, après les périodes de guerre, on a remarqué qu'il y avait vraiment des grosses pertes au niveau des terrains. Les terrains, il y avait tout explosé. Bref. Donc, on a aussi remarqué que vers 1860, l'économie du Mexique s'était basée plus sur les mines puis les exportations. Donc, l'économie mexicaine s'est vraiment marquée aussi par l'essor de la production du pétrole. Comme on sait aujourd'hui, le Mexique, c'est vraiment un des principaux pays à être exportateur de pétrole. Aussi, je peux pas parler de l'économie mexicaine sans parler de la crise mexicaine qui s'est déroulée de décembre 94 à janvier 95. Le peso, l'argent mexicain a vraiment subi une dévaluation. Il y a eu une grosse inflation du peso. Ensuite, bref, ça allait pas super bien. Puis finalement, le Mexique démocratique des années 2000 est marqué par une forte croissance économique. En effet, maintenant, on se rapproche le plus possible de 2015. En 2011, le Mexique était la 14e économie mondiale. Donc, le niveau de vie du Mexique, il n'est pas supérieur à plusieurs autres pays, mais on le place quand même premier et deuxième producteur de pétrole et d'automobiles. Donc, bref, j'ai fait vraiment l'historiographie de l'économie mexicaine. Puis pour la suite, je vais passer la parole à mon collègue Mathieu, qui va nous parler un peu plus de sa recherche réflexive à lui. Donc, vas-y.
Donc, merci Kimberly. Donc, moi, ma recherche réflexive, ça portait sur les mesures anti-drogue, puis la drogue au Mexique. Donc, avant tout, ce sujet-là en particulier, ça a vraiment commencé durant les années début du 20e siècle. Il y avait un général, si on pourrait dire, qui se nommait Esteban Cantú. Puis M. Cantú, il avait principalement le pouvoir dans le nord du Mexique. Puis à cette époque-là, l'opium il était interdit, donc s'est penché sur le trafic de drogue, principalement sur la marijuana, puis d'autres drogues en particulier. Puis éventuellement, ça s'est devenu une pratique gratifiante, puis il faisait beaucoup de profit. Donc, puis en même temps, il y avait pas moyen que ces pratiques, ça soit des pratiques criminelles, parce que il y avait aucune loi qui interdisait les pratiques de drogue à cette époque-là. Donc, plus que le temps avançait, ben, il profitait de sa position, puis, comme je disais, il avait beaucoup de profits, donc il achetait des armes, principalement pour grossir son armée, puis il payait aussi ses soldats, payait aussi ses administrations. Donc, il avait beaucoup de pouvoir. C'est en 1929 qu'il y a la création du Parti révolutionnaire institutionnel, donc le PRI. Puis ce parti-là, ben, il avait beaucoup de pouvoir. Dans le fond, il possédait le monopole politique, puis il avait un très grand pouvoir militaire. Puis éventuellement, ben, ce parti-là a pris beaucoup de place dans le territoire national. Puis c'est avec le temps que les cartels, donc les groupes de trafiquants, ben, ils ont perdu du pouvoir. Donc, eux autres, ils voulaient trouver un moyen pour avoir un regain de pouvoir. Puis c'est ainsi qu'ils ont fait ils ont trouvé un moyen entre les deux parties pour faire... dans le fond, ils ont fait un pacte. Le pacte, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était vraiment du fait que les trafiquants de drogue, eux autres, évidemment, il y avait beaucoup de profits qui leur revenaient. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient donner leur partie de profit, puis les pouvoirs politiques, il y avait, dans le fond, ils blanchissaient toutes les opérations des trafiquants. Donc il y avait une certaine corruption à cette époque-là. Aussi, il y avait une création du DFS, donc une Direction fédérale de sécurité, c'est une sorte de CIA mexicain. Puis c'est avec sa création-là qu'il y a, dans le fond, eux autres, ils voulaient empêcher le trafic des drogues. Mais éventuellement, il y a eu un sorte d'élément déclencheur qui a eu une mort d'un agent de la DEA, donc la DEA, aux États-Unis. Puis cet assassinat, ça a été fait par des policiers corrompus au Mexique. Donc ce que ça fait, bien, ça a vraiment une sorte d'effet de bombe. Donc ça a vraiment coupé les relations entre les États-Unis. Puis la DFS il a connu sa fin. Pour ce qui est des mesures anti-drogue, ben il y en a quand même beaucoup au Mexique, mais puis il faut dire sont quand même importants puis significatifs du fait que éventuellement le président il a engagé près de 35 000 soldats en dans de peut-être une ou deux années. Puis ça a augmenté au fil des années. Aussi une importante lutte contre la drogue du fait qu'ils ont augmenté 50% du salaire des soldats puis de la police. Donc du fait qu'ils veulent pas avoir de corruption dans le pays. Aussi, il y a une spécialisation des autorités, donc soit de la police ou soldats militaires. Puis, il essaie aussi de jouer avec les Mexicains d'un côté psychologique. Dans le fond, il leur donnait des menaces. Dans le fond, il disait comme si, admettons, il les interceptait, mais il disait qu'il pouvait les envoyer dans des prisons mexicaines. Puis, évidemment, ben, les Mexicains ne veulent pas aller dans les prisons américaines. Désolé. Puis, c'est ça, les Mexicains, eux autres, ils veulent éviter ça à tout prix. Aussi, une importante aide des États-Unis, une aide de près de 1,4 milliard depuis 2006, puis aussi une aide de 360 millions de Washington. Donc, aussi, ils ont intercepté plusieurs personnes qui sont importantes dans les organisations cartels. Puis, donc, c'est ça, c'est pas mal des interventions qui sont assez importantes, mais malheureusement, ça pratiquement aucun impact sur les cartels, du fait que les hauts dirigeants, ben, ils font juste se régénérer, puis ils vont tout le temps trouver un moyen de s'adapter aux situations, puis continuer leur marché qui sont liés autour de la violence. Puis c'est ça, il y a une très grande hiérarchie, puis c'est très dur à faire tomber cette hiérarchie. Donc, aussi, il faut penser que le trafic de drogue, c'est principalement une sorte d'idéologie, du fait que on peut pas l'anéantir. Donc, on peut pas l'effacer de la pensée des gens. Puis, c'est pour ça que c'est très difficile. Puis, ça fait plus d'un siècle qu'il y a ce très gros problème au Mexique. Puis, ça a un très grand impact sur l'aspect politique. Donc, ça, c'était ma recherche réflexive. Donc, je vais passer la parole à M. Charles Saint-Louis.
Merci, Mathieu. Je vais reprendre la parole. Donc, moi, Ma partie de ma recherche réflexive s'est faite généralement sur la Révolution mexicaine. Donc, pour débuter, je vais faire une petite introduction simplement sur le fait que, bien sûr, depuis toujours, peu importe de quelle société on regarde, il y a toujours eu une sorte de hiérarchie. Des hiérarchies qui se sont transformées peu à peu avec le temps en système politique. Parfois, c'était des démocraties ou parfois tout simplement de simples dictatures. Donc, au début du 20e siècle, le Mexique a connu son lot de rébellions et de révoltes. Il y a eu une grosse guerre civile, il a connu sous le nom de Révolution mexicaine, qui s'est produite entre 1910 et 1920. Donc, tout ça a débuté à cause que depuis le début des années 1900, le Mexique est un pays très inégalitaire, avec au pouvoir fédéral depuis plus de 30 ans, Porfirio Diaz. Cet homme qui ne laisse pas de place à l'opposition, donc en 1910, il a été réélu en écrasant complètement là, l'opposition, en ne laissant pas agir et s'exprimer. Étant donné qu'il avait le pouvoir, il s'est permis de les tasser d'une certaine façon. Cependant, c'est vraiment ce qui a causé la majorité de la rébellion. C'est vraiment ce qui a poussé les gens à se rebeller. Étant donné que la majorité des citoyens mexicains dans ces années-là étaient souvent agriculteurs, possédaient au départ des terres qu'ils ne possédaient malheureusement plus, qui étaient maintenant aux mains des riches, et puis qui travaillaient dans le fond pour les riches, mais évidemment à faible salaire, donc au bout de la ligne, c'est eux qui travaillaient, et c'était évidemment les riches qui empochaient. Donc, rébellion qui s'est passée un peu partout à travers le Mexique. Au nord du pays, on avait Pancho Villa. Plus au sud, on avait Emiliano Zapata. Donc, c'est deux hommes qui, dont Villa qui était un hors-la-loi, dans le fond, là, qui s'amusait à attaquer directement l'armée fédérale, les transports de chemin de fer. Dans le fond, lui, il voulait vraiment faire passer un message. De l'autre côté, on avait Zapata qui, lui, a monté une armée, en fait, de citoyens, une grosse armée. Donc, par la suite, en fait, j'ai fait une partie de recherche, dans le fond, ma partie historiographie. Je l'ai fait sur deux auteurs, François-Xavier Guerra et Alan Knight. Donc, ces deux hommes-là, c'est des historiens qui s'entendent les deux pour dire que la grande partie de la Révolution a pris naissance dans l'État du Nord du Mexique, dans le fond, puisqu'il y a eu la grande partie des exploitations minières. Cependant, les deux ne s'entendent pas nécessairement pour dire quelle est la cause vraiment originale. Ils sont capables de dire que ça vient de la même place, mais la cause est différente. Moi, suite à mes deux lectures, en fait, là, j'avais pris position plus du côté de Alan Knight, qui dit que la révolution est d'origine agraire et non minière. Puisque François-Xavier Guerra disait que, étant donné que tous les rébellions, la majorité des rébellions se sont passées majoritairement au nord du Mexique, donc dans les régions minières, il disait que c'était vraiment de là que tout avait débuté. Cependant, la vraie raison, en fait, dont, à mon avis, les rébellions ont commencé, c'est comme dit M. Knight, c'est vraiment du point de vue agraire. Donc, c'est tous les gens qui sont tannés de travailler la terre pour les autres, donc qui voudraient avoir la possession de leur terre, qui voudraient pouvoir avoir leur bien en certaine façon, qui pourraient alors à ce moment-là eux aussi s'enrichir, pouvoir avoir une vie, une meilleure vie en fait là, en général. Donc moi je serais plus porté à dire que ça vient du point de vue agraire, mais François-Xavier Guerra était vraiment lui de l'autre point de vue, là, vraiment du côté où on dit que, étant donné que les gens qui se rebellaient en majorité du temps étaient du côté des mines, c'est probablement tout simplement parce qu'il y avait une grande concentration de population qui était là, probablement que ça avait fait comme une plus grosse explosion, si je peux dire. Donc la majorité des gens se sont vraiment rebellés dans ce coin-là, mais c'était une grosse partie de la population qui se tenait là. Donc pour ma partie, je crois que ça va être tout. Donc, suite à cela, je vais passer la parole à Jessica.
Donc, merci Charles. Moi, j'ai fait ma recherche sur la migration clandestine du Mexique. Donc, partir de chez soi en fuite n'est pas quelque chose de récent. Par contre, depuis le 20e siècle, un nouveau phénomène est apparu, puis c'est celui des réfugiés. En effet, avant, parfois, les personnes pouvaient quitter leur pays d'origine, mais avaient tout le temps une place, un pays d'origine, un pays d'accueil, qui venait les accueillir. Par contre, depuis le 20e siècle, beaucoup de personnes se retrouvent dans la position où ils veulent fuir leur pays, mais personne, aucun État veut les reconnaître. Puis ça, c'est vraiment un problème que la population mexicaine a dû vivre. C'est l'immigration clandestine a beaucoup d'impact sur non seulement le pays d'accueil, mais sur le pays en tant que tel. Donc, au fil du temps, la question de la migration illégale a fait la question de la migration illégale a fait étude pour plusieurs sociologues. Toutes les études sont venues, dans le fond, en conclusion que la migration est causée à la fois par des facteurs positifs qui caractérisent les lieux de la destination et de facteurs négatifs au lieu de départ, qui, dans le fond, eux, s'appellent les push factors, puis les autres facteurs positifs sont les pull factors. Pour la question de la migration clandestine du Mexique, il y a beaucoup de raisons pourquoi les Mexicains voudraient immigrer. Donc, je suis venue avec plusieurs raisons parmi tant d'autres. Il y a les inégalités sociales qui sont très présentes sur le territoire mexicain. Il n'y a vraiment aucun partage équitable des richesses. Beaucoup de la population là, un petit pourcentage de la population détient une grande partie de la richesse. Puis plus que 90% du reste de la population sont vraiment pauvres. Puis ils doivent s'arranger avec le peu de richesse que les riches vont leur laisser. Donc ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de violence symbolique. Il y a beaucoup de quartiers extrêmement riches. Puis autour des quartiers qui sont plus pauvres. Donc les pauvres doivent voir les riches vivre dans un style de vie vraiment... vraiment pas pareil comme le leur. Donc ça, ce serait des raisons pourquoi que les Mexicains voudraient partir. Parce que si t'es pas dans une telle classe sociale, tu peux pas avoir les richesses. Donc eux, ils vivent vraiment dans de pauvres conditions. Il y a aussi la délinquance et la violence. Comme on sait beaucoup, les taux de crimes et d'homicides ont vraiment accentué depuis quelques années. Il y a beaucoup de groupes criminels, les cartels de drogue, la mafia, font beaucoup d'enlèvements et de meurtres, ce qui rend la population assez dans la... Ce qui rend que la population vit dans la peur, puis dans le danger. Puis il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de corruption dans le pays, donc beaucoup des groupes criminaux vont infiltrer les forces policières, ce qui va faire en sorte que la population peut vraiment pas faire confiance à personne, parce que premièrement, il y a beaucoup de groupes criminaux, puis ils peuvent pas se tourner vers la police parce que ils savent pas qui fait partie des forces policières pour vrai ou ceux qui font vraiment partie des groupes criminels. Donc cette inconfiance-là fait en sorte que beaucoup vont partir pour la recherche de meilleures conditions. Puis aussi le combat de garde la drogue qui est entre la partie du gouvernement mexicain qui est pas corrompu puis les groupes criminaux. Ça a fait en sorte que l'armée est dans les rues, puis les combats entre la mafia et les autres groupes criminaux et contre le gouvernement a fait en sorte que plusieurs civils ont été tués. Donc c'est vraiment des conditions que beaucoup de Mexicains voudraient échapper. Sinon, le phénomène aussi montre que beaucoup de Mexicains qui sont allés vers les États-Unis sont revenus. Parce que une fois qu'ils sont dans un autre pays, leurs conditions sont pas toujours meilleures. D'une part, il y aurait beaucoup de racisme aux États-Unis. Les Mexicains seraient vus comme des personnes qui abuseraient du système, qui viennent ici vraiment pour bénéficier des services, mais qui payent pas les taxes. Donc, les immigrants illégaux doivent faire face à tous ces préjugés. Il y a aussi le fait que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont des criminels, qui sont délinquants, puis qui volent les jobs des Américains. Il y a aussi la peur d'expulsion qui donc il y a aussi la peur d'expulsion qui peut vraiment être quelque chose qui va être encombrant pour la vie des immigrants illégaux. Puis dans le fond, beaucoup de personnes vont pas utiliser l'aide qui peuvent leur être offertes par peur d'être expulsés parce que s'ils se font prendre, ils vont retourner dans des conditions vraiment pas très bonnes. Donc, il y a plusieurs autres raisons pourquoi que les immigrants illégaux du Mexique voudraient partir ou même retourner dans leur pays. Mais c'est vraiment ceux-là qui m'ont marqué et qui me marquent beaucoup. Donc, nous allons enchaîner avec nos entrevues. Chacun d'entre nous a interviewé des personnes d'origine mexicaine. Donc, toi, Mathieu, est-ce que tu veux me parler de ton Mexicain?
Oui, donc moi, j'ai interviewé un jeune homme dans la vingtaine qui s'appelle Marco Sandolo. C'est un ami, dans le fond, c'est un de mes cousins qui me l'a référé. Il est allé à l'école avec, à l'université. Puis, Monsieur Sandolo, c'est un jeune immigrant. Un jeune immigrant mexicain. Dans le fond, ses deux parents viennent du Mexique. Puis, c'est un gars très sympathique. En fait, il me parlait de beaucoup de ses intérêts, son immigration. C'est pas mal ça. Surtout de ses intérêts. C'est un très grand passionné de la cuisine. Il est capable de faire des... Tu sais, me parler des grands classiques là, comme les tacos, les nachos, les fajitas. Donc, c'est un très grand cuisinier. Éventuellement, il me parlait un peu qu'il voudrait avoir sa propre cuisine. Donc, c'est ça. C'est un très grand passionné. Puis, c'est essentiellement sa famille qui a donné cette passion-là. Il me parlait aussi de son grand-père qui a donné quelques trucs, essentiellement un livre de recettes, puis c'était tous les grands classiques mexicains. Dans vos réunions de famille, je suppose, est-ce que c'est la grande fête ou c'est plutôt calme? Comment vous pouvez décrire l'ambiance?
Nous sommes vraiment... heureux quand nous nous voyons, alors c'est une sorte de célébration, si on veut. Et puis je me demande si des fois je pourrais dire que le football aussi est très important pour nous. Nous nous réunions quand il y a des matchs de football de nos équipes, et puis
je principalement suis... l'équipe nationale du Mexique, je pourrais supposer.
Oui, bien sûr, et d'autres équipes.
Puis, il me parlait aussi du soccer, donc qu'on appelle là-bas le football. Puis, lui, c'est un très grand fan. Puis, donc c'est ça, lui, il jouait beaucoup là-bas au soccer. Puis, il joue encore. Puis, il me parlait aussi d'un de ses grands rêves, ça serait d'aller voir le Mexique en coupe du monde. Ça serait d'aller voir le Mexique en Coupe du Monde, puis aussi d'aller d'être présent à des très grandes festivités. J'ai oublié le nom, m'a échappé, mais c'est une festivité d'échelle mondiale. Puis c'est essentiellement sa mère qui a pris place vraiment le plus souvent à cette festivité-là. Aussi, il a parlé un peu de sa complicité avec sa famille. Donc, il disait que c'était une famille très festive. Donc, l'ambiance était bonne. Je veux dire, il y a souvent de l'alcool qui est présent. Puis, essentiellement la Corona. Hein, c'est un très grand fan de bière. Aussi, il m'a parlé de ses séjours au Mexique. Donc, voici un de ses extraits.
Puis aussi, je comprends que vous avez fait un plutôt long séjour dans le sud du Mexique. Donc, vous avez visité plusieurs villes. Comment vous pourrez me décrire ce séjour?
La plupart des villes qui sont en banlieue, c'est des villes qui sont très difficiles. Le taux de criminalité est très élevé. C'est un pays très pauvre, alors les gens n'ont pas beaucoup à perdre. Alors, comparé au Canada, les gens sont beaucoup plus centrés sur eux-mêmes. C'est de l'individualisme, mais c'est tout.
Mais pour comparer à ça, comment, mettons, vous pourriez décrire les personnes qui vivent là-bas? Est-ce que c'est plutôt des personnes tristes
c'est ou des gens que dépressifs? C'est des gens que même si malgré ils sont pauvres, ils sont contents de ce qu'ils ont, et puis c'est des gens qui sont beaucoup plus collectifs et qui veulent travailler ensemble pour aller vers quelque chose. Tandis qu'ici, comme je disais, le Canada, sont les gens ici en Amérique du Nord surtout, ils sont plus centrés sur l'être humain. Et puis, par l'être humain, je veux dire l'individu, donc l'individualisme.
Oui, je vous comprends très bien. Donc, c'est intéressant. En même temps, vous faites un peu une comparaison entre la vie d'ici au Québec puis la vie au Mexique.
Puis, on enchaîne avec sa famille. Donc, c'est vraiment son ambiance. Il m'a parlé que la très grande majorité parle espagnol. Du fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent français. Donc ça ajoute vraiment un bonus pour pratiquer vraiment sa langue. Du fait qu'il est très, très, très bilingue. Aussi, j'ai demandé s'il serait un peu une question croustillante. Du fait que s'il serait prêt à retourner au Mexique au lieu de rester ici au Canada. Puis j'étais très surpris de sa réponse, il m'a dit non, parce que dans le fond, c'est tout ce qui est la famille, les études, là, présentement il est en train de faire ses études, il va finir bientôt. Donc il est très, très passionné de la vie canadienne, même québécoise, puis il veut vraiment savourer ça le reste de sa vie. C'est sûr qu'il va continuer à aller voir la famille là-bas, mais c'est un jeune homme très sympathique. Donc ça c'était pour Marco. Charles pourra enchaîner ensuite avec son entrevue.
Oui, donc moi j'ai eu la chance d'interviewer Virginia Valencia. Donc c'est une femme d'origine mexicaine qui habite Saint-Eustache avec sa famille. Donc je lui ai posé quelques questions sur son adaptation ici au Québec. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Évidemment, c'est sûr qu'au début, elle m'a parlé que le fait que, dans le fond, elle, la raison pourquoi elle est arrivée ici, c'est qu'elle est tombée en amour avec un Québécois. Donc, à ce moment-là, dans le fond, ça lui a donné un gros coup de main, dans le fond, pour l'intégration. Parce qu'il connaît, évidemment, elle ne connaissait pas la langue française, elle ne parlait pas non plus l'anglais, donc c'était très difficile pour elle de se débrouiller. Elle avait beaucoup de difficultés aussi avec les changements de température. Faut pas oublier qu'elle est arrivée, là, dans le fond, Donc elle est arrivée, il faisait encore froid ici au Québec, donc ça faisait un gros changement de température avec les températures qu'elle elle vivait en fait au Mexique. Donc elle dans le fond son copain en fait a pu lui montrer un peu comment ça fonctionnait dans les épiceries, des choses comme ça, comment aller gazer, comment ça fonctionnait au restaurant, tout ça. Donc je vous laisse entendre un petit extrait.
Ça a été beaucoup en question de langage. C'était super. Aussi, pour la température, le climat, quand il faisait froid, m'encourager pour pas être dépressé. L'intégration, je ne sais pas, aller au centre ou aller à n'importe quelle place, ils m'ont montré que ça marche tout. Parce que c'est bien différent que chez nous. Et, donc, ça m'aide beaucoup.
Donc, par la suite, je lui ai demandé comment a été l'intégration au niveau de son emploi. Donc, sûrement parce qu'elle avait déjà un emploi au Mexique, elle a dû en trouver un nouveau ici. Donc, bien sûr, elle m'a dit qu'elle a dû attendre d'avoir appris convenablement le français. Puis que par la suite, là, ça lui a permis, dans le fond, là, de retourner aux études puis de se trouver un nouvel emploi. Donc, je vous laisse entendre.
Éducatrice?
Oui. Mais c'est super sûr, j'ai envie de dormir.
Oui. Mais là, vous avez attendu de mieux parler le français avant de vous lancer dans les études.
Oui, parce que même si le fait c'est plus facile le faire en anglais pour s'adapter bien ici au Québec, c'est sûr que tu dois parler français.
Oui.
Le monde remercie beaucoup ça. C'est super gentil, même si tu ne parles pas 100%, ils sont super fins, ils t'expliquent, ça marche, on dit ça comme ça, des fois je dis désolé parce que mon français n'est pas très bon, ils disent non, c'est pas grave, je comprends super.
Puis ensuite, je lui ai aussi demandé si elle s'ennuyait, en fait, du Mexique quand elle était ici, ou si des choses, dans le fond, quand elle allait au Mexique, qui lui manquait du Québec. Donc, évidemment, quand elle est arrivée ici au Québec, la première chose qui lui a manqué, c'est la liberté. En fait, parce que en ne connaissant pas la langue et comment le Québec fonctionnait d'une certaine façon, elle était restreinte. Elle dit pour les simples choses comme aller à l'épicerie chercher quelque chose quand tu avais le goût d'un café ou des choses comme ça, pour elle c'était une grosse tâche pour quelque chose de bien simple. Donc de ce côté-là, elle s'ennuyait en fait du Mexique et aussi au niveau de la température. Mais après avoir passé plus de 2 ans et demi ici au Québec, elle est retournée au Mexique avec son conjoint et son enfant, puisqu'elle avait eu un enfant. Puis, rendue là-bas, elle a réalisé qu'elle se sentait mieux au Québec. Elle se sentait plus chez elle au Mexique, pour différentes raisons. Évidemment, elle disait qu'au Québec, on était bien organisé. Tout le monde était tranquille, c'était sécuritaire. Au travail, les gens savaient ce qu'ils avaient à faire, les tâches étaient bien définies, comparativement au Mexique où, dans le fond, le temps est plutôt long, façon de parler, sur le fait que tout le monde prend son temps. Ici, ça tourne quand même assez vite, mais c'est quelque chose qu'elle, elle aime bien. Donc, je lui ai parlé aussi, elle m'a parlé aussi, en fait, au niveau de la carte d'assurance maladie, en fait. Elle trouvait qu'ici, c'était merveilleux comparativement, en fait, à ce qu'il y avait au Mexique. Au Mexique, il faut que tu travailles pour avoir la chance d'avoir droit à des soins. Et si tu ne travailles pas, évidemment, c'est très dispendieux. Donc, je vous laisse entendre un dernier extrait à ce sujet.
J'ai senti une grosse différence. J'ai senti que j'étais pas à ma place.
Rendu là-bas?
Oui.
Au Mexique? Ah oui?
Oui.
Parce que vous étiez habitué ici?
Oui, parce que ici, vous êtes bien organisé dans tout. Les mots ici, vous êtes patient, vous êtes tranquille, vous avez plein de sécurité, toutes les choses sont comme bien rangées. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais, c'est quelque chose que nous savons pas.
OK.
Et là-bas, le monde, c'est plus brillant. Ici, non. Ici, il y a la calme.
Donc maintenant que vous avez entendu, en fait, un résumé de l'interview, de l'entrevue que j'ai fait avec Mme Balancia. Donc maintenant que vous avez entendu un petit résumé, dans le fond, de l'entrevue que j'ai fait avec Mme Balancia, je vais laisser la parole à Kimberly.
Donc moi, j'ai fait une entrevue avec un garçon que j'avais rencontré dans un bar. C'est un peu drôle parce que c'est un bar de danseurs à Montréal. Donc finalement, quand j'ai réussi à le retracer, puis que je savais qu'il était d'origine mexicaine, il a vraiment été content de vouloir participer à ça. Donc lui, ça fait à peu près, il s'appelle Joe, ça fait à peu près 7 ans qu'il a immigré au Mexique. En fait, lui, il y a 7 ans, il habitait avec ses parents. Ses deux parents, ils avaient un très bon travail. C'était pas des gens qui étaient dans la pauvreté ou dans la misère. Lui a toujours été à l'école. Il vient d'une bonne famille. Puis un jour, il s'est passé quelque chose avec son père. Puis son père a comme fait une petite guerre. Bref, ils ont comme tout perdu. Puis par la suite, Joe a entendu parler de la possibilité de venir au Canada. Donc, il y avait des amis qui venaient souvent ici. Fait que un jour, ils ont décidé de comme faire un voyage, vraiment un voyage pour le fun comme ça. Puis quand il est arrivé ici, il est comme tombé en amour avec le mode de vie québécois-canadien. Donc, il est arrivé à Montréal. Il a dit que ça a pas trop pris de temps avant qu'il sache qu'il voulait vraiment vivre ici. Ce qui a pris le plus de temps, c'est d'avoir vraiment d'être reconnu comme un citoyen qui est canadien, en fait. Puis d'avoir ses permis de travail, parce que, dans le fond, puis son permis de conduire aussi, parce que les permis de conduire sont pas valables partout. Bref, c'est compliqué. Donc, ce qui est drôle, c'est que lui non plus parlait pas français. Il parlait seulement espagnol. Puis, comme il m'a raconté une petite anecdote que, dans le fond, lui, il savait même pas qu'à Montréal, on parlait français, donc je vais vous laisser sur cet extrait-là.
Je savais même pas que vous parlez français pour commencer. Je savais même pas.
OK.
Je sais comment c'est Canada. Canada, on m'a dit, ben, je vais là-bas, là, j'ai des amis, puis tout ça, ça va être cool. Okay. J'arrive ici, first, c'est comme tout le monde parle en français.
Ouais.
Okay,
tout est dépaysé.
Non, anglais, je parlais. Okay. Je suis bilingue depuis que j'ai 11 ans.
Donc, pour poursuivre, dans le fond, je lui ai demandé d'où il venait, parce que le Mexique, c'est quand même très grand. Puis lui, il m'a dit qu'il venait vraiment de Mexico City. Comme j'avais lu dans mes recherches antérieures que Mexico City, c'était quand même dangereux, qu'il y avait beaucoup de corruption, que c'était beaucoup d'enlèvements, beaucoup de cartels, etc. Donc, je lui ai posé la question, dans le fond, si... est-ce que c'est vrai que là-bas, il y a beaucoup de corruption, comme dans la police, etc. Puis, il m'a encore ramené une anecdote qui s'est produite, dans le fond, quand il habitait au Mexique. Donc, je vais vous laisser sur cet extrait-là.
On va retourner, dans le fond, quand tu étais au Mexique, tu dis que, surtout, Mexico City, c'est vraiment la corruption, c'est quand même...
C'est dangereux.
Pour un jeune homme, quand tu étais là-bas,
j'avais peut-être 20 ans.
OK, pour un jeune homme de 20 ans, tu dis que c'est dangereux, puis en plus, t'es local, t'habites là-bas.
Ah ouais.
Pourquoi tu dis que c'est dangereux?
Quand t'es petit, je m'en souviens quand j'avais peut-être... On parlait de 10 ans, 11 ans. Tes parents commencent à te sortir là, de partout, de dans la rue, puis tu vas faire de mer. Tu vas pas au parc, parce que c'est pas comme ici, là, qu'il y a des parcs, puis ça va prendre, mais tu vas faire des commissions, whatever.
Ouais.
Je m'en souviens bien, là, mes parents ils me disaient tout le temps là, tu marches, tu regardes à droite, là, tu regardes à gauche, tu regardes en arrière. Tout le temps, là, à chaque homme.
Okay.
Souvent. Là,
tu es sur tes gardes.
Après ça, là, ça devient instinctif.
Ouais.
Tu le fais comme ça. Là. Des fois, je sais, là, puis je le fais,
ouais,
puis
ça, comme ça. Ça l'a fait quand même.
C'est comme, mais non, rien, c'est juste
checker s'il y a quelqu'un avec un physique.
Non, c'est ça, c'est une habitude. C'est une habitude. Mais tes parents, ils disent de faire ça. Hein, comme tu vas traverser la rue, là, faut vraiment checker est-ce qu'il y a personne. Non, c'est bon, okay, c'est correct. Jamais aller dans les affaires qui sont quand il fait noir, là, jamais dans des endroits tout seul, comme ça. Tu peux pas faire ça. Là. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. Fait que...
Donc. Contrairement à ce que mes collègues ont pu remarquer avec leurs personnes qui ont eu une entrevue, moi, Joe, il s'est super bien intégré. Il est vraiment allé dans la communauté. Il s'est super bien intégré. Dès qu'il a appris le français, qu'il a pas pris vraiment beaucoup de temps à apprendre, puisque il se tenait vraiment avec des gens qui maîtrisaient bien le français. Donc, il a commencé à travailler dans les bars, il a commencé à s'intégrer super bien, puis c'est un beau garçon, il est confiant, il aime vraiment la vie ici, bref, il m'a vraiment dit qu'il retournerait pas au Mexique, mais des fois il va juste pour visiter sa famille, parce qu'il est quand même dans cette culture-là, ils sont très très près de leur famille, donc il garde contact avec ses parents, même avec ses frères, etc. Donc pour lui c'est quand même une fierté de venir là-bas, c'est pas il a pas honte de le dire. Puis c'est pas mal ça, dans le fond, que je voulais apporter avec ce travail d'entrevue-là. Donc, pour finaliser, je vais passer la parole à Jessica, qui a aussi eu une entrevue avec une personne d'origine mexicaine. Donc, vas-y, Jessica.
Moi, j'ai interviewé une jeune Mexicaine de 19 ans. Elle vient au Cégep à Saint-Jérôme. Son nom est Chelsea Yunette Becerra Guzman. Elle est venue avec sa famille au Canada à 12 ans. Ils sont venus ici puis ils connaissaient vraiment rien du pays. Ils ont dû apprendre la langue puis toute la culture une fois rendus là. Donc vraiment, Chelsea, c'est vraiment un bon exemple de personne qui est venue puis c'est vraiment sans repère, elle a dû s'intégrer puis vivre ici pour le reste de sa vie. Donc pendant l'entrevue, elle m'a expliqué vraiment le choc culturel que sa famille et elle ont dû vivre. Elle m'a fait part des difficultés qu'elles ont dû traverser au début. Pour eux, l'intégration à la société québécoise s'est fait en partie assez facilement, mais ils ont dû vraiment quand même vivre, ils ont dû quand même faire face à beaucoup de discrimination au début. En effet, Chelsea me dit...
Vous avez été victime de discrimination, est-ce qu'il y a des gens qui ont porté des jugements?
Ouais. Au secondaire, je m'ai fait intimider à cause que je parlais pas français. Puis mes parents aussi, ils sont fait voler l'argent à cause qu'ils pensaient les personnes qui ont parlé pas français, alors ils ont profité pour nous charger des plus.
Maintenant, est-ce que, maintenant que vous êtes plus adaptés, que vous parlez bien français, est-ce que vous faites encore preuve de discrimination?
Des fois, mais maintenant, mes parents, ils se laissent pas faire, là. Ouais. Ils vont dire, OK, c'est-tu à cause que je parle pas bien français, que j'ai un accent, que vous faites ça? Ils vont pas se laisser, là, tu sais, parce qu'on est quand même des personnes égaux.
Par contre, plus tard dans l'entrevue,
Elle m'a avoué que maintenant, sa famille et elle ont réussi à quand même vraiment bien s'intégrer. Puis que maintenant, avec la langue qui n'est plus vraiment un obstacle pour eux, ils vivent beaucoup moins de discrimination. Puis sont vraiment mieux intégrés puis sont capables de juste vivre dans le style un peu le style de vie québécois. Pour eux, leur façon de voir, leur perception de voir le Québec a vraiment changé. Ils se sont vraiment plus intégrés puis ont intégré un peu notre culture à la leur. Par ailleurs, il est vraiment connu que les groupes de la mafia au Mexique représentent une grande menace pour la population mexicaine, comme que j'en ai même parlé tantôt. Chelsea et sa famille, eux-mêmes, ont été directement touchés par la mafia. En effet, elle m'a dit qu'elle, dans le fond, le groupe La Familia, qui est un groupe de la mafia là-bas au Mexique, c'est une des raisons pourquoi qu'ils ont dû quitter le pays, puis eux-mêmes ne peuvent pas retourner là-bas parce que leur vie serait en danger. En effet, elle m'a expliqué un peu sur leur histoire. Donc, je vous laisse un peu un extrait de son récit.
Il s'appelait La Familia. Puis cette personne-là, il demandait l'argent aux personnes qui avaient l'argent, mais tu sais, qui avaient des gros commerces. Mm-hmm. Maman, elle avait son agence de voyage. Mon père avait son resto. Donc, il demandait l'argent à mes deux parents chaque mois. C'était une quote. En fond, mes parents payaient chaque mois pour supposément notre sécurité.
Okay.
Puis, si on ne payait pas chaque mois, ben, il allait nous tuer. Il disait, OK, tu ne me payes pas 7 mois, je vais tuer ta fille ou ton fils. Alors, on n'avait pas le choix. Mes parents étaient tannés de payer chaque mois. Alors, ils ont décidé, OK, mais on va quitter notre maison. On avait une grosse maison là-bas. Tu sais, j'avais une meilleure vie là-bas. Mais les circonstances étaient difficiles, alors on a quitté le pays.
Est-ce que vous aviez beaucoup peur quand vous saviez? Est-ce que vous étiez au courant pendant que tout ça se passait?
Oui, mon frère, oui. Mais pas moi. Moi, je pensais que c'était un jeu. Mais mon frère, chaque nuit, il y avait des terreurs.
Ainsi, c'est vraiment une des raisons pourquoi que le Québec représente une bonne terre d'accueil pour plusieurs Mexicains, dont Chelsea et sa famille. Vraiment, Chelsea puis tout le restant de sa famille comptent rester ici pour le restant de leur vie. En effet, elle me dit que...
J'aimerais ça habiter au Mexique dans un futur plus éloigné ou vous allez rester au Québec toute votre vie?
Moi, j'aimerais rester au Québec parce que je me suis quand même bien adaptée. J'aime le Québec en général, les personnes aussi qui sont ouvertes d'esprit. Je me vois plus ici qu'au Mexique.
Donc, c'est ça, mon entrevue avec Chelsea a été très enrichissante. Ça l'a vraiment montré le parcours de plusieurs Mexicains immigrants. J'ai vraiment aimé l'interviewer parce qu'elle est super sympathique. Puis tu vois vraiment l'amour qu'elle a pour le Québec et pour sa culture mexicaine. Donc pour enchaîner notre émission, nous allons aborder le sujet de la géographie parce que chacun d'entre nous a fait une recherche là-dessus.
Donc, non, moi, mon travail, c'était sur mon article, c'était sur la gestion de l'eau. Puis c'est ça, on parlait essentiellement de la répartition entre la région du sud, la région du nord, puis la région du centre. Puis il y avait beaucoup d'inégalités là-dessus. Puis ça avait surtout rapport par rapport aux précipitations, puis tout ça. Puis je sais pas si vous autres, ça parlait en particulier sur l'eau.
Ben moi, c'était, en fond, c'était plus comme, on dit qu'on était la géo. Moi, c'était plus la géopolitique, mais en tout cas, c'est dans le même domaine. Puis c'était le premier travail sur le livre. Puis pour ce qui est de l'eau, ça disait que le Mexique, c'était... avec son vaste territoire, ça devenait des fois un problème à la frontière mexicaine qui sépare les États-Unis, comme il y a trop d'eau, l'eau s'infiltrait dans le sol, dans les nappes phréatiques, puis
genre il y a trop de précipitations.
Ouais, ou... c'est ça, ça disait qu'il y a quand même beaucoup de précipitations, puis toute cette eau là se ramassait comme dans le sol, puis c'est quand même dangereux. Mais...
Donc moi, j'ai fait aussi un peu une recherche sur le climat, puis j'ai vu que à différentes parties du territoire, il y a des précipitations qui sont différentes. Donc, il y a des places où il y a des montagnes, il y a plus de précipitations. Ouais. Donc, comme tu dis, le résidu d'eau. Mais il y a d'autres places aussi où il y en a moins, ce qui rend un peu le pays assez déserté.
Mais oui, on sait que c'est chaud, puis...
Ben, tu sais, comme moi, j'ai des chiffres intéressants, là, pour... Tu sais, ça dit, en moyenne, les précipitations au Mexique, c'est 770 mm. Okay. Tu sais, des régions qui s'enregistrent à, genre, près de 1900 mm. Puis ça, c'est quoi? C'est par année. Ouais. Tu sais, c'est près de 1000 mètres de plus qu'en moyenne. C'est quand même énorme.
Ouais, c'est vrai.
Mais dans ce que j'ai vu, moi, dans la recherche que j'ai fait, dans le fond, ça disait que pour être un pays en santé, en fait, ça prend une abondance en quantité, une abondance en nourriture, mais surtout aussi une accessibilité à l'eau potable. Donc, c'est sûr que les parties qui sont plus sèches, comme disait, dans le fond, Jessica, c'est sûr que ça, c'était plus désavantageux, dans le fond, pour ces gens-là. Mais pour les régions où il y a beaucoup d'eau, oui, ça devient un problème, mais c'est quand même un côté positif sur le fait qu'en ayant, dans le fond, une bonne quantité d'eau, ça leur donne toujours accès à cette eau-là.
Ouais, c'est ça. C'est mieux d'en avoir plus que pas assez, on s'entend là-dessus.
Puis, je sais pas si vous avez comme une partie un peu sur le climat, mais on pourrait parler aussi du climat du Mexique comme... comme ce qu'on retrouve dans comme température. Ben moi dans le fond c'était plus sur la frontière mexicaine, pas vraiment sur le territoire en entier, c'était plus sur la frontière du Mexique qui sépare le Mexique. Donc ça disait que le climat était vraiment varié. Puis
ben moi ça dans le fond dans ma recherche j'ai vu qu'il y a beaucoup dans le fond de facteurs qui vont influencer la chaleur. Puis c'est sûr que le fait qu'ils sont proches de l'océan, c'est sûr que les parties plus au sud du pays, proches de l'océan, vont faire en sorte que ça peut être plus frais, tandis que le centre va être plus sec parce qu'il va avoir moins de... La fraîcheur de l'océan va pas vraiment affecter le climat, ce qui va faire en sorte que c'est plus sec et moins humide.
Et comme j'ai un exemple à apporter, là, dans les montagnes comme la montagne Sierra de Juarez, mm-hmm. Puis les hauts plateaux mexicains, dans ces zones-là, il fait plus chaud parce que le relief est varié, mais en haut il fait plus froid. Comme c'est pour ça que c'est vraiment un climat qui est varié. Puis aussi on trouve des déserts, des cactus, des steppes avec un climat super tempéré. Donc c'est vraiment.
Ben pour revenir un peu sur comme qu'est-ce que disait Jessica aussi sur dans le fond où est-ce que les gens dans le fond étaient situés. Moi je vois qu'il y a une grande partie qui est surtout au centre du Mexique, donc c'est sûr comme elle dit où il se fait très chaud. Ils se tiennent surtout dans les grandes villes, donc Mexico qui est une très grosse agglomération d'environ plus de 10 millions d'habitants, ce qui est assez énorme. Ça fait à peu près entre 200 et 500 habitants par kilomètre carré, ce qui est très c'est beaucoup là, tu sais. Puis Mexico une agglomération semblable à la ville de New York ou Paris là, si ça vous donne une idée.
Il y a vraiment beaucoup de monde. Puis le Mexique c'est à cause de son climat aussi, il regorge de plusieurs ressources naturelles très riches. En effet, il possède beaucoup de minéraux comme du fer, du charbon, du phosphate, de l'uranium, de l'or dans son sol, même de l'argent. Du cuivre, du plomb, du zinc, bref, je pourrais continuer à en nommer. Puis aussi comme je disais plus tôt, ils possèdent des sources d'énergie comme le gaz naturel, puis beaucoup de pétrole. C'est la 6e réserve mondiale de pétrole, c'est quand même énorme.
Ouais, puis comme tu parles de pétrole, mais aussi comme agriculture, c'est comme un des plus grands pays voués à l'agriculture dans le monde.
Depuis toujours.
Oh, ouais, c'est très intense, puis justement, pour l'utilisation de... Si on revient à l'eau, il disait qu'il utilise près de 78% de son eau pour l'agriculture, parce que c'est une très grande consommation. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pour ça que peut-être ça peut expliquer pourquoi il y a des régions qui sont plus sèches que d'autres.
Ouais, par rapport à l'agriculture, moi, c'est ça, j'ai vu que la culture de base au Mexique, c'était le maïs. Puis, dans le fond, la diversité du sol puis du climat, c'est idéal pour le maïs. J'ai vu que même de plus de 4000 variétés de blé d'Inde se seraient développées au fil du temps sur le territoire mexicain, justement juste à cause de cette grande variété que le sol peut procurer.
Ouais. Je pourrais apporter aussi, dans le fond, un autre point sur, au niveau de, dans le fond, l'espérance de vie. Souvent, on aime comparer, dans le fond, avec différents pays, voir si... dans le fond, l'espérance de vie est assez élevée, parce que l'espérance de vie donne quand même un signe au niveau des aménagements sanitaires et tout ça, dans le fond, on fait aussi de la science au niveau médical, pardon. Donc, l'espérance de vie au Mexique en 2009 était quand même assez élevée, entre 70 et 81 ans en moyenne, ce qui est inférieur quand même au Canada, mais le Canada est à environ entre 80 et 85 ans. Donc, c'est pas une grosse différence quand on regarde la différence d'économie qu'on peut avoir, nous, avec le Mexique. Et souvent, qu'est-ce que les préjugés que les gens vont avoir sur le fait que le Mexique est un pays très pauvre, qui n'est pas...
violent.
Exact, c'est ça, t'as exactement. Ouais. Donc, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence d'âge non plus à ce niveau-là.
Ouais, mais surtout à cause de la violence. Moi, honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus bas que ça, mais c'est ici. Surtout les progrès médicaux, c'est sûr que ça doit beaucoup aider, là, surtout dans des pays comme ça. S'il y en a qui n'ont pas des soins, là, comme ici, c'est gratuit, mais il y en a qui, c'est sûr que c'est plus difficile, ils sont plus limités économiquement, puis ils n'ont pas les moyens de s'acheter des soins de santé.
Ouais, mais moi, ça me surprend quand même beaucoup à cause que, tu sais, à chaque fois que mes recherches ont souvent été portées avec l'économie du Mexique, la pauvreté a souvent été mentionnée là. Fait que ça me surprend, tu sais, avec la grande pauvreté que beaucoup de personnes, c'est sûr que ça a un grand lien, là.
C'est pas partout, là. Faut pas. Ouais,
non pas c'est ça, faut pas généraliser. Non, c'est exactement.
Ça. Il y a des parts, tu sais, comme c'est comme à Montréal, il y a des quartiers qui sont vraiment plus défavorisés, il y a des quartiers qui sont super. En haute criminalité, etc., beaucoup de corruption, puis gars, ça varie vraiment, mais ce qui m'a marqué, moi, c'est par rapport à mon étude sur la frontière, c'est que quand on regarde du côté des États-Unis, qui est super, tu sais, qui s'est super collé, on remarque que c'est l'American way of life, le monde, tu sais, il parle d'espoir, de valeurs qui sont positives, puis dès qu'on regarde de l'autre côté de la frontière au Mexique, il y a des gens qui vivent dans des bidonvilles, dans des poubelles, c'est ça qui m'a vraiment marqué plus de mon étude sur la géopolitique.
Ben, c'est pour ça aussi on peut comprendre qu'il y a autant de Mexicains qui traversent les frontières. Ouais,
mais malgré tous les bidonvilles, tout ça, moi, ce qui m'étonne, c'est quand on compare avec les autres pays industrialisés comme le Québec, le Canada ou les États-Unis, au niveau, dans le fond, de la mortalité infantile. T'sais, même à ça, on se dit dans les bidonvilles, tout ça, il y a beaucoup d'enfants qui meurent, mais il y a quand même moins de 15 décès pour 1000 naissances. Si on considère toujours, dans le fond, c'est avant l'âge de 1 an. Dans le fond, ils ont un taux aussi faible que le Canada ou les États-Unis. Donc, malgré tout, ils trouvent quand même avoir une certaine richesse à être capable d'avoir, dans le fond, les soins médicaux nécessaires pour les enfants et tout ça. Donc, faut pas non plus trop s'en faire à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, je pense, surtout au niveau des bidonvilles, mais qu'en général, là, c'est quand même quelque chose d'assez raisonnable.
Ben, c'est ça. Une chose que j'ai vue dans ma recherche réflexive, c'est que beaucoup de Mexicains retournaient au Mexique justement parce que les conditions de vie étaient plus si pires que ça. Tandis que, tu sais, dans l'histoire, quand ils ont connu vraiment une pauvreté, ouais, là, ça les poussait à sortir du pays. Mais maintenant que l'économie, oui, tu sais, il y a quand même beaucoup d'inégalité sociale, mais ça reste que leur condition de vie n'est pas si pire que ça, ce qui pousse ces Mexicains à revenir, dans le fond, quand même au Mexique, là.
Mais c'est quand même difficile de s'intégrer dans un pays qui est étranger. Fait que c'est pour ça que il y en a qui reviennent aussi, là, tu sais, parce qu'ils n'ont jamais été capables de s'introduire. C'est un processus qui est long, puis qui est compliqué, puis c'est pas tout le monde qui peut s'adapter à ce genre de mode de vie-là, surtout le froid, là.
Ouais, puis surtout avec le mur maintenant, avec les États-Unis. C'est juste, l'immigration clandestine est quand même vraiment plus difficile maintenant pour eux aussi, là. Puis juste, légalement, c'est difficile pour eux d'obtenir la citoyenneté, là. Donc, pour conclure, nos recherches réflexives, même nos entrevues qu'on vous a présentées, ont été vraiment enrichissantes pour nous. On a pu apprendre beaucoup sur le pays du Mexique, puis on a vraiment une perception de voir les Mexicains et le pays vraiment différemment. Je remercie Kimberly, Charles et Mathieu pour l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée.